Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à Daniel Herrero, auteur d'un dictionnaire amoureux de l'Ovalie. À quelques jours de la Coupe du monde de rugby 2023 qui va se dérouler en France, c'est toujours vivifiant de se replonger dans le livre culte de Daniel Herrero, Dictionnaire amoureux de l'Ovalie, édité par Plon en 2019. Daniel Herrero est né le 19 juin 1948 à Puisserguier, dans l'Hérault, de parents immigrés espagnols. Les conditions de vie n'étant pas faciles dans l'agriculture de l'Hérault, son père choisit de s'exiler dans le Var, à la Seyne-sur-Mer, dont le club de rugby, l'Union sportive sénoise, cherche à se renforcer. Il arrive là-bas en juin 1949, signe au club de rugby, trouve un emploi au chantier naval, un appartement à Toulon et en septembre fait venir sa famille. Daniel est âgé de 9 ans. Les Herrero auront en tout 2 filles et 4 fils, André, dit le grand, Francis, Daniel et Bernard. Tous 4 vont être joueurs de rugby. En 1966, Daniel est capitaine de l'équipe de France junior. Cette année-là, il débute dans l'équipe première du RC Toulon. Il joue 3e ligne centre. Il poursuit des études qui vont le mener au CAPES d'éducation physique et sportive. Dans la fièvre des événements de mai 1968, il se laisse aller à caillasser un véhicule des forces de l'ordre. Les dirigeants du RC Toulon furieux le privent de la finale du championnat de France contre Lourdes. La sanction provoque un déclic. Daniel découvre ce qui va être une des grandes passions de sa vie, le voyage. Le 16 mai 1971, il est finaliste du championnat de France. Toulon perd contre Béziers. Après cette défaite, en conflit avec leurs dirigeants, 10 joueurs titulaires du RC Toulon, dont André et Daniel Herrero, quittent le club. Ils signent au Racing Club de Nice. Daniel y reste jusqu'en 1976. De 1976 à 1987, il enseigne à l'Université de Nice. En 1983, il revient au RC Toulon en tant qu'entraîneur. En 1987, il conduit le club à un 2e titre de champion de France, 56 ans après le premier titre. Il le conduit 2 fois en finale, en 1985 et en 1989. Il quitte le RC Toulon en 1991. De 1992 à 1997, il est entraîneur et manager du PUC. À partir de 1989, il est chroniqueur au Journal du Dimanche. En 1992, il devient consultant pour les matchs de rugby à Sud Radio. Auteur d'une 10aine de livres, il est conférencier, coach et conseiller à l'entreprise. Spécialiste de l'envolée lyrique, de la pédagogie imagée, de l'allégorie philosophique, de la sociologie poétique, il prêche le rugby comme un théologien la religion. Dans ce dictionnaire amoureux de l'Ovalie, qui fait suite et complète le dictionnaire amoureux du rugby, nous avons choisi 5 entrées. Page 25, All Black. Page 50, Hams Park. Page 186, Gareth Edwards. Page 220, France-Nouvelle-Zélande 1999. Page 227, Frère Boniface.
All Black. En Nouvelle-Zélande, tout ce qui est né avec une bite entre les jambes rêve d'une seule chose, devenir un All Black. Pas président de la République, star de cinéma ou chanteur de rock, non, All Black. Me disait, embrumé de bière, un ami néo-zélandais avec qui je festoyais un soir dans un bar d'Auckland. On se mit à parler du haka, ce chant de guerre maori que l'équipe de Nouvelle-Zélande hurle à la face de ses adversaires avant chaque match international. Ronde collective, rite guerrier venu du fond des âges, le haka s'empare du corps des joueurs et les emporte dans une transe de possédés. Les pieds, les bras, les langues et les yeux jouent alors une partition frénétique unique dans l'Ovalie mondiale. Complètement absorbé par son sujet, mon ami ouvrit brutalement le col de sa chemise, posa sa bière et se mit à faire en haka le plus sérieusement du monde. On ne badine pas avec l'âme des guerriers. Les yeux écarquillés, le corps vibrant, il hurlait ce cri venu des entrailles de son peuple. Le silence se fit dans le bar. Chacun avait le regard braqué sur lui. Et il ne serait venu à l'idée de personne de se moquer de cette pulsion étrange qu'il avait prise soudain. Quelques femmes inquiètes tiraient leur mari par la manche. « Viens, chérie, on s'en va. » Il acheva l'incantation, les yeux injectés de sang, le visage couvert de sueur. Il finit sa bière d'un trait, me salua et sortit de l'établissement. Le coup de foudre d'un pays pour un sport. Rugby is New Zealand. Note, le rugby c'est la Nouvelle-Zélande. Fin de note. Résumait un jour le premier ministre néo-zélandais David Lang pour signifier combien ce jeu et l'identité de son pays étaient inséparables. Il nous faut remonter à la naissance de ce lien intime. À la fin du XIXe siècle, la Nouvelle-Zélande est un territoire presque désertique, peuplé de moutons, accessoirement de colons britanniques et de maoris, survivants des massacres orchestrés par les premiers explorateurs. Les migrants sont arrivés en quête de fortune. La plupart s'installent comme fermiers ou simples ouvriers, aux côtés des maoris, dans les bourgades du bout du monde, isolés, en quasi-autarcie. La vie est dure, les éléments naturels sans pitié, les divertissements rares, en dehors de l'alcool et des bagarres. Et puis un jour, un fils de parlementaire aisé arrive de Londres, avec dans son cartable les règles d'un nouveau sport, le football rugby. Immédiatement, les pionniers font de ce jeu le prolongement récréatif de leur culture un peu rustique, que les anglo-saxons appellent le mateship, un mélange de camaraderie masculine, de beuverie et de force physique. En quelques années, aidé par les nouvelles lignes ferroviaires qui favorisent les échanges sur le territoire, le rugby devient le sport national, le centre de la vie sociale dans les zones rurales, ce qui revient à dire dans toute la Nouvelle-Zélande. Grâce au chemin de fer, le pays cesse d'être un territoire éclaté en petites colonies, mais devient une nation de dur à cuire en quête d'identité. Grâce au rugby, pionniers et maoris deviennent des Néo-Zélandais. En 1888, la première équipe nationale part effectuer une tournée marathon dans les îles britanniques. Le capitaine, Thomas Ellison, impose alors les deux emblèmes du rugby néo-zélandais, le maillot noir frappé de la fougère et le haka, le chant de guerre maori composé dans les années 1820 par le chef Roparata. En 1892, la fédération néo-zélandaise voit le jour. 100 ans plus tard, en 1987, les enfants obtiennent un jour de vacances pour fêter le titre de champion du monde de rugby des All Blacks. Devenez vous aussi un All Black. Les Blancs, descendants des colons, et les Maoris, natifs de l'île, ont donné ensemble naissance à un métissage génial, les All Blacks. Ils se sont toujours complétés à merveille dans ce sport, les premiers apportant une rigueur tout anglo-saxonne, un souci de méthode et une discipline collective, les seconds colorant le jeu de leur éternelle fraîcheur physique, leur créativité et leur énergie. Le rugby néo-zélandais réunit les deux communautés et les invite à être grandes ensemble, ce qui fait sans doute l'incontestable suprématie des All Blacks. Les vertus socialisantes du rugby n'ont d'ailleurs pas échappé aux instituteurs néo-zélandais qui, dès le début du siècle, imposent ce sport à l'école, auprès des garçons et des filles de tous âges, jusqu'à l'adolescence. Au Te Haute College, relais du système d'éducation anglais en terre australe, l'enseignement est ainsi destiné aux jeunes gentlemen maoris, invités par le biais du sport à grossir les rangs de la classe moyenne anglophone. Les gouvernants néo-zélandais, qui perçoivent vite le potentiel unificateur d'une telle activité, récupèrent le rugby à des fins politiques. En 1888, une campagne de recrutement de nouveaux pionniers est organisée en Angleterre dans le sillage de la première tournée internationale des All Blacks. Forts, resplendissants de santé, les joueurs sont présentés après les matchs comme les ambassadeurs officiels de ce territoire inconnu. Sur leur passage, des affiches qui vantent la qualité de vie en Nouvelle-Zélande invitent même les aventuriers anglais à participer à la légende. Devenez vous aussi un All Black. Plus tard, les rugbymen néo-zélandais sont enrôlés dans les régiments de la couronne pour aller servir en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers ou en Europe lors de la guerre de 1914-1918. le rugby devient un symbole patriotique, une incarnation des valeurs de la société néo-zélandaise, qui se présentera toujours comme le bon élève de l'Empire, le chouchou du Commonwealth. Les joueurs de rugby s'engagent sans réfléchir au service de leur pays. Ils mourront comme un seul homme, inscrivant définitivement le rugby dans le cœur de la population néo-zélandaise. Les All Blacks sont donc considérés comme des héros en Nouvelle-Zélande, des hommes exemplaires, humbles et courageux. Chaque village, chaque communauté rêve d'avoir dans ses rangs un joueur international. Cette passion ne s'est jamais altérée. L'Académie. Il y a de la magie dans l'Académie All Black et du sortilège dans leur rationalité. Les Néo-Zélandais innovent, savent tout faire et se débrouillent toujours pour avoir dans leur rang des joueurs hors normes. Comble de l'impensable, les All Blacks sortirent en 1995 de derrière les cocotiers le plus énorme des poupons, l'incroyable Jonah Lomu, 19 ans, 2 mètres ou presque, 120 kilos et moins de 11 secondes au 100 mètres. Les All Blacks sont vraiment à part. Bien au-delà des gabarits ou de la ferveur populaire, la clé de la réussite reste leur culte de la précision, de la discipline et du travail bien fait. Les Néo-Zélandais, qui ne bâclent jamais une attitude, un axe de course ou une position, répètent à satiété les fondamentaux du jeu comme autant de gammes incontournables. Il ne s'agit pas pour eux de réussir techniquement une prouesse individuelle, mais de parvenir à enchaîner des gestes parfaits les uns avec les autres, le plus vite possible. Dans leur éducation rugbystique, le détail a autant d'importance que l'ensemble, et l'individu est toujours au service absolu du groupe. L'institution All Black perdure ainsi comme une république merveilleuse. Les grands capitaines All Black, pourtant adulés comme des dieux, ont toujours été des monstres d'humilité, des gars de la terre qui savaient malgré la gloire où était leur place. Briam Lockhart, David Kerr, Redky Macko. Être All Black, c'est être l'élu d'une histoire, d'une culture, d'une façon d'être au monde. En Nouvelle-Zélande, les héros doivent toujours ressembler aux gens qu'ils représentent, ou plutôt à l'image que le pays veut avoir de lui-même, fier, dur au mal, simple et solidaire. Les accros à ce principe ont d'ailleurs été vécus comme des drames, comme lorsque la fédération néo-zélandaise accepta dans les années 1920 d'exclure ses joueurs maoris contre les Springboks afin de ne pas contrarier le pouvoir africanaire. Les hommes politiques néo-zélandais firent une terrible erreur d'appréciation en acceptant de sacrifier la morale pour ne pas priver le peuple de son spectacle favori. L'intégration des Maoris est un des piliers du rugby en Nouvelle-Zélande, et cette compromission ne fut pas tolérée. Plus tard, en 1981, une tournée des Springboks en Nouvelle-Zélande vira à l'émeute, sous la pression des activistes anti-apartheid. Ce fut un Munich ovale. Curieusement, la France est peut-être de toutes les nations celle que les All Blacks redoutent le plus, comme si les maîtres de la discipline n'arrivaient pas toujours à dompter notre rugby imprévisible et orgueilleux. Les All Blacks ont fait rêver tous les amoureux du rugby de la planète. Jouer contre eux est toujours un grand honneur et une immense angoisse, comme si leurs joueurs étaient entourés d'un halo de mystères fascinants et inquiétants. Le rituel du haka, leur jeu collectif, et ce sens absolu du sacrifice en font des hommes singuliers, respectés et craints comme personne à Novalie. Voir Eden Park, France-Nouvelle-Zélande 1999, Henry Graham, Lomu Jonah, Umaga Tana, World Cup. Arms Park. Silence, on parle ici d'un stade défunt, un stade mort sous les pelleteuses. C'est un peu comme un théâtre transformé en McDo, une vieille salle de boxe en station-service ou un bistrot de quartier en borne internet. C'est triste. Il y a des lieux qui, même faits de briques et de ciment, ont un cœur. Rasés, cassés, vendus aux bétonneurs, ils emportent avec eux le souvenir des petits bonheurs et des grands drames. La vie, quoi. L'Arms Park, c'était à Cardiff la plus belle cathédrale. Un temple au cœur de la cité, un pré sacré. Les jours de match, dans les maisons en granit, les vieilles dames mettaient sur la table un drapeau rouge flanqué d'un dragon en signe d'allégeance, et la ville tout entière retenait son souffle, suspendue à la clameur chaude venue du stade. Chaque pensée galloise convergeait ainsi vers le champ de bataille pour que l'équipe nationale des Diables Rouges puise ses forces dans l'amour de son peuple. Quand s'entonnait le chant fétiche « Land of my father », »,« La terre de mes ancêtres », tout le monde levait ensemble les yeux au ciel. Ce chant sorti des entrailles des mines pourrait bouleverser le plus sinistre des croque-morts, le plus sévère des inspecteurs des impôts. Au Wallace final, après avoir versé quelques larmes, les gens ouvraient une petite fiole de whisky pour rendre la pluie d'hiver moins glaciale. La rencontre pouvait alors commencer. Bien plus que le centre névralgique du rugby gallois, Lance Park était la caisse de résonance de la nation, un symbole de patriotisme pour un pays au grand cœur. L'authenticité de cette ferveur a ému le monde entier. Les comptes rendus de matchs du tournoi à Cardiff se résumaient d'ailleurs souvent à des descriptions de frissons pendant les hymnes, quelle que soit la teneur et la qualité de la bataille. Lance Park était devenu un lieu de pèlerinage, et les amateurs de rugby auraient traversé désert et océan pour communier avec la nation galloise dans la Sainte Chapelle. Les Gallois, lyriques et braves, ont ainsi bénéficié d'une grande sympathie, et jamais un seul sifflet n'est venu perturber la grande chorale. La première fois que je suis allé à Lance Park, c'était pour voir l'équipe de France emmenée par Christian Carrère y remporter un grand chelem en 1968. On m'avait dit « Viens bien en avance pour écouter les Gallois chanter ». Arrivé 2 heures auparavant, déjà inhibé de cette bière que les hommes engloutissent là-bas dès le matin de la rencontre, j'étais tout seul dans les tribunes du stade mythique. J'ai vu s'installer peu à peu les gaillards en rouflaquette, les rougeaux et les dépoids traillés malgré le 0 degré ambiant. Les Gallois n'ont jamais froid. D'ailleurs, ce sont les seuls anglo-saxons à ne pas s'échauffer avant de jouer. Ils boivent une pinte de bière et hardis pour défendre le poireau. Le match fut médiocre, mais la France l'emporta. Christian Carrère grimpa sur les épaules de Walter Spanghero pour un tour d'honneur de légende. Je finis cette nuit-là dans les pubs aux alentours du stade, au bord d'un fleuve de bière, de pisse et d'eau sale. En 1999, Cardiff a accueilli la finale de la Coupe du Monde comme une juste récompense, mais le vieil Hams Park, avec sa carcasse usée par la passion, fut jugé trop petit, trop vétuste. Des architectes ambitieux dessinèrent un stade ultra-moderne, avec toits télécommandés, tribunes rétractables et centre commercial intégré. Un vrai joyau de technologie, baptisé le Millennium Stadium, renommé depuis 2016 Principality Stadium, que j'aime à traduire dans ma tête le Stade des Princes. Lance Park fut détruit en quelques jours par des tractopelles obéissantes, emportant avec lui ce que le nouvel édifice mettra du temps à avoir, une âme, voire Pays de Galles. Edwards Garrett. Comment élire notre représentant suprême? La tâche est plus qu'ardue, puisque chaque pays a son panthéon, chaque époque son excellence rugbystique, chaque poste ses fleurons. Sans surprise, dans la mémoire collective d'Ovalie, les figures inoubliables sont souvent des attaquants. On se laisse impressionner par ce qui brille. Bien sûr, on se souvient aussi des grands combattants, les Walter Spanghero, Wilson Vinoray, Colin Meads, Johan Klassen, Louis Mollman, James Cavanagh, Willie John McBride. Mais si l'on écume les comptoirs, les vestiaires et les clubhouses, si l'on sonde les mémoires, même si l'on va errer dans les cimetières, cela s'impose. On en pince toujours pour les attaquants. Tout cela n'est pourtant qu'un faux débat. Le meilleur joueur du monde ne peut pas avoir été qu'un attaquant ou qu'un combattant. Le meilleur de tous doit être de tous les fronts. Notre Mister Univers, il combine tout. L'attaque et la défense, le courage et la fantaisie, l'humilité et le brio, le coup de pied et l'adresse manuelle, la technique et la stratégie, l'innovation et le sens des règles. Il doit incarner le rugby à lui tout seul. Après 40 ans passés à sillonner la planète ovale, je peux avancer, sans risquer un tollé général, que le meilleur du monde, c'est Garrett Edwards, gallois, demi de mêlée dans les années 1970. C'était un petit gabarit qui avait toutes les qualités. Aussi rapide qu'endurant, on disait qu'il avait 3 poumons. Téméraire et inventif, il avait surtout une excellente vision panoramique. Ce type pouvait faire des passes aveugles de 10 mètres dans son dos. Elles arrivaient toujours à destination. Il dosait savamment son jeu, entre audace et sobriété. Il était aussi très courageux et excellent défenseur. Et en plus, cela va finir par agacer, il était leader, capable de créer du lien dans l'équipe. Voilà, Gareth Edwards avait tous les attributs. Comme les footballeurs en Pelé, nous avons Gareth Edwards. Il a d'ailleurs en plein Cardiff une statue de bronze à son effigie. Voir Barbarians, capitaine, demi de mêlée, pays de Galles. France, Nouvelle-Zélande, 1999. Lors de la Coupe du Monde de 1999, la demi-finale qui opposa la France aux All Blacks entra dans les annales mondiales. Elle fut par la suite jugée comme la plus grande œuvre de l'histoire du rugby français. Jusqu'à ce match, les Bleus de Skrela et Villepreux avaient fait un parcours ordinaire dans la compétition et on ne leur voyait pas grand avenir. Ils entamèrent leur demi-finale de manière conforme aux prédictions, sobres, engoncés dans leurs devoirs, sans joie. Ils ramaient en suffoquant face à des Blacks qui, en toute logique, devaient les laminer. À la reprise de la deuxième mi-temps, le titanesque Lomu vint fracasser la défense française et, en essayant de le stopper, Benazi s'explosa à son tour dans un improbable tampon qui annonça la révolte. Réveillé au vestiaire et enivré par un enthousiasme nouveau surgissant de leur cœur dans l'ombeau, les Français, prêts à s'immoler pour sauver l'honneur, allaient renaître brillamment sur le lit de braise où les All Blacks, qui menaient 24 à 10, voulaient les rôtir définitivement. La deuxième mi-temps révéla donc une équipe de France à l'énergie insoupçonnée, habitée par un esprit flamboyant, presque surnaturel. Les Bleus culbutèrent les Blacks jusqu'au dernier et débondèrent tous les talons contenus. La maison, le buteur français, fit chanter un allegro jusqu'au dernier de ses orteils. Des buts et des drops de notre monde tombèrent dans l'escarcelle française qui déborda de points et de joyeuses écumes. Lomu ne toucha plus une balle. Plus triste qu'une branche qui laisse tomber son fruit pour personne, il finit même par baisser son pavillon d'extraterrestre face à l'extravagante impertinence de Dominici, au physique de bébé comparé au Golgoth et à la vélocité prodigieuse du furet Bernard Sall. L'emportant par 43 à 31, accédant à la finale comme au Saint Graal, nos coques étaient définitivement remplumées et les All Blacks vexés à jamais. Pendant l'épidémie qui s'est abattue sur le 15 de France de 2010 à 2020, alors que la camomille peinait à soigner l'indigestion et les compresses chaudes à calmer les ciboulots, le souvenir de ce match guérit de tous les maux. Voir All Black, Lomu Jonah, World Cup. Frère Boniface. Ils n'étaient pas de ces frères qui ne sont rien l'un sans l'autre. Eux, ils étaient tous ensemble. André et Guy ont traversé dans une longue accélération la décennie 1960, liés, inséparables. Quand Guy perdit la vie sur un bord de route, le duo devint mythique, emblème du talent perdu et du martyr ovale. La France adore les purs doués qui n'ont pas besoin du labeur pour embellir leur jeu. Là étaient les bonis. Leur style imprévisible et classieux portait le germe de l'insolite. André et Guy confirmèrent sur le terrain que le beau jeu est aussi affaire de sentiments et que, quand on s'aime, on est plus fort. André avait l'allure pouponne d'un enfant qu'être l'aîné contrarie, mais qui intègre la rigueur et la responsabilité de son rang. Guy, trop conscient de la vanité de l'existence, passa sa courte vie à en explorer les limites. Les deux faisaient la paire, d'autant, comme le disait Denis Lalanne, que le meilleur était celui qui n'avait pas la balle. Fils des Landes et fidèles à leur club de Mont-de-Marsan, ils jouaient trois quarts centre. L'Ovalie entière nous les enviait parce que, avant même qu'on ait fini de prononcer leur nom, ils avaient déjà traversé le terrain, ballon en main, et fait deux ou trois belles percées, dont l'une s'était conclue par une passe croisée. Les mesquins qui rabâchaient que les frères Bonny n'étaient pas toujours bons avaient sans doute raison. Les poètes ne sont pas toujours en verve. Ils parcourent simplement un trop court bout de route en notre compagnie pour nous montrer ce que la beauté peut être. Encore faut-il savoir les écouter. Voir Barbarians, French Flair, passe trois quarts centre.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.